Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on avait vu ces dernières semaines ensemble dans l'Épître aux Romains? On avait commencé à la fin de l'année dernière. On avait vu que les hommes sont pécheurs. Hein. C'était le chapitre 1, verset 18 à 3, 20, que Paul veut qu'on comprenne bien ça. Et j'espère qu'on a bien compris que tous les hommes sont pécheurs. La condition de l'homme est vraiment un petit peu déplorable, parce qu'à la fois elle est... On voit cet homme qui est esclave, hein, qui a été puni là, et qui est sous la dépendance d'un maître impitoyable, et ce maître impitoyable qui ne nous ménage pas, c'est le péché, qui nous donne, qui se permet de nous faire des choses qu'on ne voudrait pas faire, qui nous garde toujours dans l'échec et dans la défaite. Qui coupe nos aspirations alors que dans notre cœur il y a le désir de vraiment de faire de belles choses et de vivre une vie à la gloire de Dieu. Il n'y a personne n'échappe à sa dure dictature, et la double peine, c'est que le comportement qui résulte du péché, c'est la condamnation. Donc, il y a vraiment une situation qui est impossible pour l'homme. D'une part, il accomplit le mal, et d'autre part, il sait qu'à cause de ce mal, Dieu devra le juger. Et il n'arrive pas à s'en sortir seul. Mais Jésus est intervenu. Jésus est intervenu. Et il a pris sur lui la condamnation pour nous libérer de cette condamnation à venir. On a vu ça, c'était la justification par la foi. Paul l'explique bien avec de nombreux exemples. Il explique l'origine de cela, le péché de Adam. Il explique que Jésus-Christ a vraiment pris la condamnation sur nous et que nous sommes libres. Et on voit les dessins ici qui expriment la grande joie et la grande liberté que de se savoir pardonné par Dieu. Parce que finalement, c'est lui qui compte le plus pour nous. Et nous avons commencé depuis quelques semaines. Une fois que je suis libéré, Dieu m'a mis en liberté par rapport au péché, je m'en vais de là, hein. Je reste pas sous l'empire du péché. Et c'est un long pèlerinage que la vie chrétienne, où l'on va petit à petit partir, s'éloigner du péché pour retrouver les Israélites avaient quitté l'Égypte, et puis ils avaient dû traverser ce grand désert pour retrouver la terre promise, avant de rentrer dans la terre promise. Et là, il y avait tout un apprentissage. Et donc, nous sommes dans l'apprentissage ici. Comment faire maintenant que nous avons été libérés du péché? Et donc, nous avons vu des choses très intéressantes. On a parlé de... L'apôtre a dit, vous êtes mort au péché. Et donc, j'avais pris cette image d'un certificat de décès. Alors, on est mort au péché. C'est la façon dont Dieu le voit, c'est la façon dont nous devons le voir, parce que c'est vraiment la réalité. Et alors, comment avez-vous vécu votre décès avec le péché, votre décès cette semaine? Vous êtes mort au péché. Comment on peut, ça peut se concrétiser tout ça? Le feu pasteur Dovi, il m'a dit que quand il était venu là, il signait chaque fois ses lettres « Pasteur Dovi ». Et il mettait le mot « pasteur ». Et pour lui, mettre ce mot, c'était important. Parce que chaque fois qu'il mettait ça, il se rappelait de sa consécration. Il se rappelait qui il était, ce que Dieu attendait de lui. Et c'était pour lui important pour le faire. C'était pas pour se mettre en valeur. C'était pas pour avoir un titre comme ça. Mais cela lui rappelait sans arrêt ce qu'il devait à Jésus. Une autre personne faisait des choses différentes, qui était une personne très connue, qui s'appelait Blaise Pascal, et qui avait eu vraiment des expériences très fortes avec le Seigneur. Et lors d'une de ses expériences, il avait noté ça, une expérience qu'il avait vraiment ramenée dans la foi. Il avait noté ça sur un petit papier, il avait griffonné. Ce papier s'appelle le mémorial. On l'a retrouvé dans ses habits après sa mort. Chaque fois, il le cousait à l'intérieur d'une poche là, dans l'habit, pour que ça soit toujours avec lui. Et chaque fois qu'il changeait d'habit, il décousait, il remplaçait et il déplaçait son mémorial pour que jamais il n'oublie qui était Jésus-Christ et comment Jésus-Christ était formidable et merveilleux. Donc c'était une autre façon de faire, et peut-être vous avez votre méthode à vous. L'important, c'est bien de se souvenir que l'on ne doit plus rien au péché quand on est en Jésus-Christ, parce que en Jésus, on est mort au péché et on est vivant pour Dieu. Et ça, c'est l'autre côté, l'autre facette. On a, en Christ, on a une nouvelle identité. On n'est plus l'identité de chrétien prend le pas sur l'identité de fils de Adam. Et c'est ça qui est important. On vit pour ce qu'on est, hein, et vivre pour, si on est chrétien, on est à Christ, c'est notre Seigneur, et on le sert. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, servir le Seigneur. Alors c'est un service à temps complet, hein, c'est du temps complet, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24. C'est un CDI à durée indéterminée, que nous avons un contrat de travail, nous sommes vraiment tout équipés, on a de quoi s'occuper, on a une nouvelle identité, on est débarrassé de l'esclavage du péché, et c'est comme ça que Dieu voit les choses, et c'est comme ça qu'il nous invite à les voir. Alors on va aller un petit peu plus loin maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle vie qui nous attend, et comment on va pouvoir quitter cet empire du péché? On va lire la suite, donc on est à Romains chapitre 7, et on va lire donc les versets 1 à 6. Romains chapitre 7, versets 1 à 6, un tout petit passage ce matin pour nous, qui va nous permettre de bien prendre le temps et d'avoir quelques réflexions complémentaires à la fin que j'ajouterai pour creuser un petit peu notre sujet. Il y a 6 versets. Chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous, frères et sœurs, on dirait aujourd'hui, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. Et le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non sous celui de la lettre qui a vieilli. Alors, je vais mettre le texte. Le titre que j'ai mis ce matin, c'est « Étant morts à la loi, nous servons Dieu selon l'esprit ». Nous servons Dieu selon l'esprit. Voilà le texte de ce matin que j'ai organisé un petit peu pour mettre les choses en évidence pour nous. Donc Paul revient sur la question de la loi. Au chapitre 6, il avait placé une petite phrase qui est peut-être passée inaperçue dans le flot de son développement, de sa pensée à ce moment-là, mais pour un chrétien d'origine juive qui a eu à cœur vraiment la loi, et qui la loi est vraiment fondamentale pour lui, il a entendu l'apôtre Paul écrire, du moins le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, car vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne plus être sous la loi de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et donc l'apôtre revient dans ces six versets sur cette question importante. Quelle est la relation du chrétien avec la loi de Moïse? Il commence donc à expliquer que, le seul moyen de rompre un lien légal, la mort rompt les liens légaux. La mort dégage de la loi. Et Paul rappelle que la loi de Moïse a été écrite pour des vivants. Hein. Elle était inapplicable pour les morts. Cela va de soi. Tout le monde comprend ça. Quand on est mort, on n'est plus redevable de la loi, parce que la loi, c'est pour les vivants. La mort dégage de la loi, et c'est ce qui l'explique. Avec cette image, cette illustration qu'il prend du mariage, des liens du mariage. Alors, dans la culture biblique de l'époque, comment ça se passait? Il y a une famille avait des enfants, et il y a un moment, et les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents tant qu'ils sont avec eux. Et il y a un moment où les enfants vont quitter le foyer pour fonder un autre foyer. Et ça se fait au moment du mariage. L'homme quittera son père et sa mère, dit la parole de Dieu, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On connaît bien ce passage. Hein. Et dans les cérémonies de mariage chrétiennes, on ajoute « Mariez jusqu'à ce que la mort vous sépare, jusqu'à ce que la mort vous sépare. » Et au moment du décès, en effet, il y a rupture dans le mariage, et le survivant des deux époux trouve son indépendance. Hein. J'évite de donner le mot de sa liberté, parce que ça voudrait dire que on n'est pas libre dans le mariage, ce qui n'est pas vrai. On est dépendant. On est dépendant de l'autre personne. Hein. Il y a aussi donc un autre exemple ici, quand Paul écrit s'il meurt, il meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. On peut comprendre ça également. Elle est dégagée de la loi du mari. Parce que dans le couple, en ce qui concerne la position de la femme, vous savez, après la chute dans le jardin d'Éden, eh bien, il y avait eu ce fait que Dieu a annoncé que le leadership, eh bien, ce serait l'homme qui l'aurait. Il dominera sur toi, avait-il dit à Ève. Et donc, on peut comprendre aussi que quand la femme est dégagée de la loi que son mari est mort, elle est dégagée de la loi de son mari. C'est-à-dire que tout ce que son mari pouvait lui avoir donné comme instruction, si on est dans l'esprit biblique de l'époque, eh ben tout cela, ça n'a plus cours. Hein, c'est terminé. Elle n'a plus du tout besoin de suivre ce que lui disait son mari. Il n'est plus là. Elle est dégagée, libérée de la loi de son mari, en quelque sorte aussi. On peut voir, il y a les deux aspects. Donc, qu'on peut voir ici en dégagée de la loi. Alors, est-ce que c'est une illustration pertinente quand l'apôtre Paul au chapitre 4 vit de même mes frères? On voit qu'il y a quelque chose qui, on dirait, qui n'est pas à sa place, puisque dans le verset 4, il s'agit de la femme qui meurt, et dans le verset, dans l'illustration qu'il a pris, c'est le mari qui meurt. Alors, il n'empêche que une illustration reste une illustration, et le principal, c'est qu'on comprenne bien. Mais l'illustration du mariage et de cette question. Pour une femme de changer de mari qui décède, c'est une illustration qui va être puissante pour la suite de l'exposé de Paul. Elle va nous faire comprendre beaucoup de choses, cette illustration. Alors nous pouvons regarder le passage qui suit, les versets 4 et 5 maintenant. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Au chapitre 6, Paul avait rappelé la signification du baptême. Quand une personne se fait baptiser, et là bien sûr on parle de baptême d'adulte, de baptême de qu'on appelle de confessant, et pas de baptême de nourrisson, de baptême de personnes qui ont confessé leur foi, elles sont l'image de ce baptême, donc c'est être avec Christ, enseveli, mort avec Christ, enseveli avec Christ et ressuscité avec Christ. Et en partant de cet enseignement sur le baptême, il a bien expliqué que nous sommes morts au péché. J'en ai parlé tout à l'heure. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que, unis à Jésus-Christ, plongés en Jésus-Christ, dans sa mort, nous avons aussi, nous aussi, connu la mort. Du moins, c'est la façon dont Dieu voit les choses. Et donc, c'est de la même manière que nous sommes morts au péché, nous sommes également morts à la loi. C'est exactement le même principe. Vous avez été mis à mort. Vous avez été mis à mort. Alors, cette expression, elle montre qu'on ne sait pas, on ne s'inflige pas la mort à soi-même. C'est une autre personne qui a fait cette mise à mort. Jésus-Christ n'a pas choisi. Ce n'est pas lui qui a été. Il s'est fait arrêter. Il a été arrêté. Il a été jugé, un jugement qui était mauvais, mais il a été condamné. Il a été exécuté. Ce sont d'autres personnes qui ont accompli ça. Bien sûr, Dieu avait prévu cela de toute éternité et c'était son plan qui se déroulait. Il voulait offrir son Fils en sacrifice pour notre rédemption, pour notre pardon et pour notre salut. Et donc, quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes en ce qui concerne notre mort à la loi. Mais vous direz peut-être, moi je suis bien vivant, je me sens bien vivant. Oui, mais aux yeux de Dieu, vous êtes mort à la loi. Dans un couple, on fait une seule personne. Hein, de la même part, on a Ernest et Dorothée, et aux yeux de Dieu, ils font une seule personne. Et ça, c'est la façon dont Dieu les voit. Et donc, de la même manière, Dieu voit, nous on en voit deux personnes, mais Dieu, il voit une personne. Et quand nous sommes morts à la loi, Dieu nous voit vraiment comme étant morts à la loi. Et c'est ce que lui voit, et c'est la façon dont il nous demande de voir les choses, de les voir comme lui. Vous avez été mis à mort par le corps de Christ. Alors, le corps de Christ est mort à la croix, et donc, comme je l'expliquais, dans le cadre de notre immersion, à notre conversion, on est plongé en lui, et donc, par notre baptême en lui, nous sommes morts avec lui. Le corps de Christ renvoie aussi à la Sainte Seine. L'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 16. Il dit que le repas, c'est la communion au corps de Christ, dans le cadre de la nouvelle alliance. Et donc, si nous sommes dans une nouvelle alliance, c'est que l'ancienne alliance, l'alliance de où la loi avait la primeur, eh bien, l'ancienne alliance est périmée, elle est obsolète. Et le chrétien n'a aucun compte à rendre à la loi. Il est sous la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Par le corps de Christ pour appartenir à un autre. Délié de la loi pour appartenir à Jésus. Donc, on avait pour être à Jésus. Alors, c'était ici que l'illustration du mariage prend toute sa force. Hein. La loi est une chose magnifique. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de la lire. Peut-être elle peut sembler comme ça un peu dure, froide pour nous. Mais au psaume 119, le psalmiste vante ses merveilles. Et pour lui, la loi est magnifique. Et c'est vrai que même d'un point de vue, quand on compare la loi de Moïse par rapport aux autres lois qui existaient à ce moment-là sur Terre, et même aux lois qui peuvent encore être en cours aujourd'hui, ah ben c'était une loi qui est quand même très pertinente. La loi est magnifique, mais Dieu veut que nous abandonnions les exigences de cette magnifique loi pour quelque chose de meilleur. Et ce quelque chose de meilleur, c'est Christ lui-même, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. La loi, il va bien l'expliquer dans la suite, elle nous fait connaître le péché. Et le péché nous conduit à la mort. Donc derrière la loi, il y a le péché et il y a la mort. Mais Dieu veut que nous appartenions à Jésus-Christ ressuscité, qui est vivant. Et là, il y a la vie derrière. Que nous soyons à celui qui est vivant. Pour appartenir à un autre. Pour appartenir à un autre. Celui qui est ressuscité des morts. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. On va voir ça juste après. Il y a une illustration qu'on prend pour ce passage, pour l'expliquer toujours sur le thème du mariage. Hein. Voilà un petit peu, je l'ai déjà entendu il y a très longtemps, après quelques années après ma conversion de Tim Knickerbocker, et d'autres bien sûr le reprennent et l'ont repris depuis, et je vais le faire maintenant. Notre attachement à la loi ressemble à une femme amoureuse d'un homme impeccable. Il est toujours tiré à quatre épingles, il est vraiment séduisant, il est parfait, il est irréprochable, il a toujours raison. Et son épouse l'admire vraiment. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas appairée avec lui. Ils font pas une paire, ça va pas. Elle, à son niveau, elle n'est pas du tout au niveau de son mari. Hein. Elle a beau faire tous les efforts pour suivre tout ce qu'il demande et suivre les exigences de son mari, et hélas, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Et elle est très malheureuse de cela. Et finalement, elle n'est pas à la hauteur. Elle le voit et elle se décourage. Elle se décourage. Ça, c'est Monsieur la Loi. Monsieur la Loi meurt. Et on la donne en mariage à Monsieur la Grâce. Et là, la condition change. Sa condition change. Il n'y a plus de liste de choses à faire. Quand elle rate quelque chose, ben son mari vient l'aider. Ils font les choses à deux. Elle est aimée. Et elle est aimée, elle se sent aimée de façon inconditionnelle. Et ça, cela change tout. Ça, cela change tout. Elle découvre le bonheur et la joie de vivre. Et on voit la différence entre les deux mariages. Et donc, bon, ça met en défi les maris, hein, cette histoire, bien sûr. Hein. c'est pour ça que l'illustration du mariage est très pertinente. L'apôtre continue, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Alors, toute la création porte des fruits pour Dieu. Dans mon jardin, vous avez, peut-être, je ne sais pas si vous avez un jardin, mais j'ai l'impression que toutes les plantes, elles n'ont qu'un seul souci, porter du fruit. Les bulbes de tulipes, là, quand c'est le printemps, il faut qu'elles fassent une fleur, et même si elles sont petites, elles essayent par tous les moyens de faire une fleur. Porter du fruit, c'est leur objectif. Cette année, le printemps, la douceur a été précoce et tous les fleurs, les arbres se sont dépêchés de faire des fleurs alors que c'était encore que le début du mois de mars. Et nous, on savait, hélas, les anciens le savaient, il va y avoir des gelées après, ça va être la catastrophe parce que c'est trop tôt dans la saison. Mais non, les plantes, les arbres, ils tenaient absolument, c'était le moment, on y va à fond, on fait des fleurs. Et ainsi est la création, et ainsi, je pense, Dieu veut que nous aussi nous portions du fruit comme tout ce qu'il a créé pour sa gloire, que nous portions du fruit. Pour l'homme, c'est hélas beaucoup plus compliqué. On avait vu ça pendant l'été dernier, avec la vigne de l'Éternel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Dieu avait planté une vigne, il avait mis des plants, il avait mis le mur tout autour, il avait retourné la terre, il avait planté sa vigne. Et sa vigne, il s'attendait à avoir de beaux raisins. Et voilà, les raisins ne correspondaient pas au plan qu'il avait semé. Il avait des raisins qui n'étaient pas bons. Qu'est-ce que je vais faire avec ma vigne? Alors, nous devons donc porter des bons fruits, non seulement des fruits, mais des bons fruits. Si nous reprenons la suite de l'histoire de la personne qui est mariée d'abord à Monsieur la Loi, puis ensuite à Monsieur la Grâce, les années ont passé et cette dame retrouve en rangeant des choses ou quoi, elle retrouve une liste, un papier froissé qui est une liste des choses qu'on lui donnait, son mari lui donnait le matin avant de partir, quand il reviendrait le soir, la liste des choses qu'il serait bon qu'elle ait arrivé à faire dans la maison. Et elle revoit cette liste et elle est là, elle est pleine d'émotions, mais elle se rend compte tout à coup que tout ce qui est marqué dans cette liste, mais maintenant, j'arrive à le faire. Maintenant, je suis arrivé à faire tout ce qui m'était demandé, tout ce que Monsieur la Loi me demandait et que j'arrivais pas du tout. Avec Monsieur la Grâce, j'y suis arrivé. Alors, quelle différence entre Monsieur la Loi et Monsieur la Grâce? Quelle différence entre le légalisme et Jésus-Christ, hein? Mise à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à celui qui est ressuscité des morts. Et ça vaut vraiment la peine. Et l'apôtre enfonce les clous au verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous la lettre qui a vieilli. Alors, on avait notre enseignement précédent, vous savez, avec avec notre CDI, on allait servir le Seigneur. C'était, voilà, on savait, il faut servir le Seigneur, il faut plus servir le péché maintenant, ça n'est fini. De toute façon, je sers, et donc que je serve pour le meilleur. Servir le Seigneur, et là donc on sert le Seigneur, mais on ne sert plus le Seigneur selon la loi. C'est un enseignement, deux enseignements que l'apôtre juxtapose ici dans ce verset 6. Nous avons été dégagés de la loi, nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. Alors nous ne servons plus Dieu dans le cadre de la loi de Moïse. Nous servons sur une nouvelle administration. Hein. Vous savez, quand le président des États-Unis, on change de président, mais toute l'administration change. Toutes les personnes qui étaient là et qui régissaient le pays et qui l'administraient, toutes ces personnes-là s'en vont et c'est une nouvelle équipe qui vient. Hein. Et donc, quand nous allons servir Dieu dans le cadre de la nouvelle alliance, eh ben, nous servons sur une nouvelle administration, celle de l'Esprit. Alors, le légalisme est terminé, le service à Dieu n'est plus régi par la loi. Et qu'est-ce qui remplace la loi? Comment on va faire? Comment on va fonctionner? Comment on va être organisé? Comment on va être dirigé dans le service? Nous allons servir sous le régime nouveau de l'esprit. Et l'apôtre Paul va développer tout ça au chapitre, à partir du chapitre 8. Donc c'est pour bientôt. Mais il y a encore, il nous faut terminer le chapitre 7 avant d'arriver à ça. Patience. Je vais développer un petit peu ce qu'on a vu, appris sur l'esprit. L'esprit du service, j'ai appelé ça. La quatrième fois que dans l'épître aux Romains, Paul a écrit le mot et a mentionné l'esprit. Alors on va regarder chaque fois où cela a été utilisé, ce mot. Vous pouvez chercher dans vos Bibles Romains chapitre 1, si quelqu'un veut chercher Romains 1, 3 et 4. Si une autre personne peut chercher Romains 2, 28, 29. Et la troisième, Romains chapitre 5, verset 5. Donc, qui c'est qui peut chercher Romains 1, 1, 3? Qui c'est qui l'a? Et une autre personne peut chercher Romains 2, 28, 29, Morel, peut-être? 2, 28, 29. Et Emmanuel, Tu pourrais prendre Romains 5, 5. Alors, 1, 3, 4, qui c'est qui là? Tu l'as, Fallon? Alors, Romains 1, 3 et 4. L'Esprit Saint a déclaré, donc c'est dans l'introduction de la lettre, l'Esprit Saint a déclaré Jésus, Fils de Dieu, en le ressuscitant des morts. Et c'est une déclaration avec puissance. Et donc, en ressuscitant Jésus-Christ des morts, ce qui est inconcevable pour les hommes, inconcevable qu'un mort puisse revenir à la vie, une démonstration de puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est puissant, il est puissant, il est le tout puissant, il a toute puissance, il a la puissance de ressusciter des morts. Ensuite, Romains 2, 28, 29.
Le juste n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision se fait du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.
Il parle ici de la circoncision du cœur qui était chèrement désirée par Moïse, mais qui peut faire la circoncision du cœur? La circoncision du cœur, c'est la nouvelle alliance dans Jérémie 31, 31 ou Ézéchiel 36, 26. Vous pouvez aller voir ces passages. Et l'Esprit est l'administrateur de la nouvelle alliance. C'est lui qui circoncit le cœur. Romains chapitre 5, verset 5.
Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Morel a fait nous a rappelé l'amour de Dieu en commençant le culte. Et cet amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Là où il y a l'amour, là où il y a l'Esprit. Là où il n'y a pas l'amour, là, il n'y a pas l'Esprit. Et donc, c'est la nouvelle administration. C'est une administration de l'amour, par l'amour, pour l'amour, que va mettre le Saint-Esprit en place. Le service est un service qui va s'accomplir dans l'amour. Et donc, ici, dans notre passage, l'Esprit Saint prend le relais de la loi. Et il est largement avantageux pour nous d'abandonner la loi de Moïse. Pour un juif de l'époque, Paul voulait qu'il comprenne que la loi, c'est vraiment ancien, c'est vraiment quelque chose qu'il faut laisser tomber. Et le régime de la grâce et de l'Esprit Saint est largement, lui est largement supérieur. L'Épître aux Hébreux dit que la loi était l'ombre des choses à venir. Alors, est-ce que vous avez déjà vu l'ombre d'une personne et la personne elle-même? Quand on voit l'ombre de la personne, on voit la silhouette comme ça, on devine, peut-être c'est telle personne, peut-être, mais ça ne dit pas grand-chose que l'ombre. Mais quand on voit la personne elle-même, c'est très différent. Et la loi, donc, c'est ça, c'est ce qui crée une ombre. Mais la réalité, c'est Christ. La réalité, c'est Christ. Et c'est Christ qu'il faut connaître. C'est pour ça qu'on a besoin d'abandonner la loi, de la laisser derrière nous. Et bien sûr, il y a des conséquences pratiques que je voudrais exposer en quelques mots maintenant. Donc, ne pas revenir à la loi, cela serait une infidélité envers Christ. On n'est plus marié en quelque sorte à la loi, on est marié à Christ et on ne peut pas revenir en arrière sans être infidèle à notre nouveau. L'Église ne peut pas être infidèle à son. Si elle revient à la loi, elle est infidèle à son nouvel engagement avec Jésus-Christ. Il n'est pas possible d'avoir Christ et la loi. C'est impossible. Il faut, soit on a la loi de Moïse, soit on a Christ ressuscité, mais on ne peut pas avoir les deux. Une autre conséquence, c'est de ne pas inventer des lois. Reconstruire des lois, ça, les hommes, ils sont forts pour ça. Nos députés, ils sont champions. Et d'ailleurs, ils sont payés pour ça, pour voter des lois, faire des lois, écrire des lois. Et chaque fois qu'il y a un gouvernement qui arrive, qui est élu, eh ben, il arrive avec des propositions de lois. On va faire de nouvelles lois à l'avantage du groupe, bien sûr, qui a été élu. Hein. Et notre nature tordue, c'est de créer des lois à notre avantage. On crée des lois qui nous arrangent. Et puis après, on les impose aux autres. Ça, c'est la nature humaine. Il y a quelque chose que je sais bien faire, dans lequel je suis fort. Je devais dire, écoutez, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est bien. Voilà. Et parce que moi, j'y arrive. Donc, vous devez y arriver aussi. Voilà. On ne doit pas inventer des lois. Notre nature tordue a aussi un penchant à l'idolâtrie. Hein. On se fabrique des lois nous-mêmes qui vont nous permettre d'avoir accès à quelque chose par le mérite. Hein. Au lieu de recevoir par la grâce, on se met une loi, on va dire je vais y arriver, je me l'impose et au final j'aurai du mérite. Et voilà la nature tordue qui... son patient a de l'idolâtrie, se fabriquer des lois pour valoriser son mérite, au lieu de recevoir par grâce ce que Dieu veut nous donner. Hein? Pour autant, la piété est indispensable. On a besoin de se discipliner, on a besoin d'apprendre à obéir. Mais attention aux engagements qui deviennent des jougs. Hein? On a des témoignages de Pierre, même à Figeac ici, de règles qui ont été mises en place par des hommes à un moment donné pour dire ben voilà, on va se mettre une règle et puis ça nous aidera à être plus pieux, plus simple, plus spirituel. Et les règles, il y a beaucoup de des régisses, des couvents, des ordres, etc. Chacun y juge de ces choses-là. Hein. Il y a des règles monastiques qui ont été faites. Il y a des règles aussi qu'on peut s'imposer à soi-même. Des règles, il y en a une qui est souvent citée. Je la cite parce que on me l'a souvent citée. C'est de s'imposer, par exemple, je vais prier une heure tous les jours. Le matin, je me mets le réveil une heure plus tôt, 6 heures, et puis je vais prier une heure tous les jours. Et là. Vraiment, je vais pouvoir devenir spirituel. Et on va être content de respecter ça au début. Ça va être enthousiasmant et peut-être on va voir des choses qui changent. Mais à la longue, cet engagement va peser sur nous comme un joug. Un joug qui va être de plus en plus lourd à porter. Mais Dieu ne demande pas ça. Dieu ne demande pas ça. Il demande à ce que nous soyons pieux, que nous apprenions l'obéissance, mais pas que nous nous mettions des jougs qui viennent pas de lui. Alors attention à ne pas inventer des lois. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais sous le régime de la grâce. Un régime communautaire. Regardez le verset 4. Il y est question de vous et de nous. Vous aussi, vous avez été, par le code de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous lui apparteniez, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Le vous et le nous. Nous sommes dans une société très individualiste. Hein. Il est normal de défendre sa liberté individuelle. Il est normal de chercher son épanouissement personnel. Il demande normal de défendre ses droits. Ça, notre société fonctionne comme ça. Si vous fonctionnez comme ça, vous êtes normal par rapport à tout le monde. Mais par contre, il est anormal de faire passer les besoins des autres avant les siens. Et si vous faites ça, on vous dira, mais celui-là, il n'est pas normal. Hein. Il ne correspond pas à la norme de notre société. Notre société est individualiste. Et si nous appartenons plus à une loi mais à une personne, il est bon de connaître cette personne. Hein? Romains chapitre 15. Voilà, dans la conclusion de son épître, ce que Paul écrit. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Tous ensemble. C'est important d'être, de faire les choses ensemble. La vie chrétienne, donc, ne se vit pas en solo. Le monde séculier, dans le travail, on m'a appris ça, hein, pour indiquer que le travail en équipe est une bonne chose. On m'a appris, seul, on va plus vite. Mais, en groupe, en équipe, on va plus loin. On va plus loin. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui est expérimenté, qui est une réalité. Et donc, au chapitre 12 de cet épître, Paul va comparer l'Église à un corps, et nous sommes un membre d'un corps. Donc nous avons un rôle, une place, au milieu d'un ensemble organisé qui est le corps de Christ. Hein, nous ne sommes pas solo, et nous ne devons pas donc servir le Seigneur en solo. Hein. Il faut composer avec les frères et les sœurs. On n'écrit pas une symphonie sans qu'il y ait plusieurs notes. Il faut qu'il y ait des notes différentes. Et il faut qu'il y ait des instruments différents. Et ces instruments, ces voix doivent s'accorder entre elles avant de chanter. Et elles sont dirigées par le Seigneur et par l'Esprit du Seigneur pour faire une belle symphonie. Hein. On dit que les chefs d'orchestre ont une oreille tellement exercée que ils ont plus de 100 musiciens devant eux, puis s'il y en a un là-bas qui fait une fausse note, il s'en aperçoit tout de suite. Hein. Et pourtant, quelle importance il y a. Une petite personne, là, René Skin, disait souvent ça, là. Vous savez, le petit triangle, là, à un moment donné, il y a un qui fait que ça. Il tient le triangle, à un moment donné, il faut qu'il tape. Ting! Alors, il fait pas grand-chose pendant le récital, mais il y a un moment où il doit être là pour faire ting. Et puis, le chef d'orchestre, s'il le fait pas tout de suite, il va s'en apercevoir. Hop! On arrête tout. Ça va pas. On recommence. Il manquait le triangle. Et, c'est ainsi que chacun a sa place et son importance. Et c'est le chef d'orchestre qui nous dirige par son esprit. Conclusion. Dieu veut que nous abandonnions la loi au profit de la grâce. Cela est nécessaire et cela est avantageux. Pour autant, nous sommes créés pour le service et l'obéissance. Les hommes ont besoin d'un cadre. Ils ont besoin d'un cadre. Un enfant qui n'a pas de cadre, un jeune qui n'a pas de cadre, et nous, si nous n'avons pas de cadre, on est perdu. Hein, on ne sait plus ce qu'on fait, on va gâcher sa vie si on n'est pas cadré. On a besoin d'avoir un dessein, un objectif, quelque chose qui nous dépasse, qui soit au-dessus de nous. Et donc, selon la volonté de Dieu, nous n'obéissons plus à un système légal froid. Nous sommes maintenant à une personne qui nous a choisis, que nous avons choisi nous aussi, qui nous aime à fond et qui nous environne de sa grâce. Alors partons tous à fond, portons tous à fond du fruit pour lui par sa grâce. Seigneur, merci de nous aider à vivre cette vie que tu attends de nous. On a tous les anciens réflexes de notre vie d'avant. Et combien c'est facile de céder à la loi. Combien c'est facile de nous satisfaire de la loi. Et Seigneur, tu attends beaucoup plus de nous. Et ce que tu attends de nous, tu nous donnes aussi les moyens de le réaliser. Merci Seigneur pour ces belles choses que tu veux faire de nous. On a tous le désir de se mettre en œuvre et de vraiment de porter des fruits qui te soient agréables, Seigneur. Aide-nous à cela. Dispose-nous. Et merci, Seigneur, dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.